France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cours de mes interventions dans cette émission sur l'inconscient, j'ai choisi de vous parler d'une parole entendue lors d'une séance. Une parole qui peut être celle de beaucoup d'entre nous, d'une expression, d'un mot, pour vous évoquer la façon dont j'exerce la psychanalyse. La façon dont s'exprime l'inconscient. La façon d'être travaillé par l'inconscient. Par exemple, lors de l'épisode précédent, je vous ai parlé de la technique analytique, ce que l'on appelle le transfert, à partir de mots exprimés dans mon cabinet qui donnaient à entendre ce qui se joue d'étrange et de fort entre le patient et l'analyste. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur les questions suscitées par la sexualité. Parfois, les tourments dus à la sexualité. Par sexualité, on peut entendre les fantasmes, les désirs, les actes. Un patient me dit « Je suis embarrassée par mes fantasmes et mes désirs bisexuels. » « Je n'ai plus de sexualité depuis longtemps et je m'en porte très bien », me dit une patiente. Ou encore « Je suis polyamoureux », me dit cet autre patient. Et de nouveaux mots qualifiant la sexualité apparaissent. Pansexuel, allosexuel, métrosexuel, asexuel et d'autres encore. Tout se passe comme si un grand nombre de paroles adressées aux psychanalystes étaient une demande d'autorisation à vivre une sexualité, quelle qu'elle soit, sans culpabilité, sans jugement moral, comme ce patient qui parle de son infidélité et qui me dit « Mon infidélité compulsive ne me rend même pas coupable, et c'est d'ailleurs de ne pas me sentir coupable que je suis coupable », précise-t-il. Tout ceci nous rappelle que dans un cabinet de psychanalyste, parler de sa sexualité reste parfois tabou, parfois culpabilisant, et que la demande faite au psychanalyste est celle de savoir si oui ou non il est normal de vivre telle ou telle sexualité. Il semble donc qu'évoquer sa sexualité reste dans le domaine moral, reste dans le domaine des normes d'une époque. Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur la vie sexuelle, je répondrai aux questions que m'ont adressées sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04, celles et ceux d'entre vous qui ont déjà écouté cet épisode en version podcast.
L'inconscient avec Laurie Lefebvre sur France Inter.
On a l'habitude de faire un lien direct entre la sexualité et la psychanalyse. Si on va voir un psy, c'est pour parler de sa sexualité, non ? Me questionne un patient un peu gêné. On pourrait se demander, en tant que psychanalyste, pourquoi la sexualité peut parfois être un motif de tant de souffrance, de tant de tourments, de tant de paroles aussi. Et que peut bien dire la psychanalyste que je suis lorsqu'il s'agit de sexualité, dans la mesure où elle est une affaire qui a l'air d'être intime ? En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'est pas si intime que cela, car elle est prise dans les discours et les normes d'une époque. Prenons l'exemple de Marie Bonaparte, la princesse Bonaparte, qui a été l'amie et la patiente de Freud pendant plus de 15 ans. Marie Bonaparte était absolument fixée sur ce qu'elle considérait comme une bonne sexualité. Je mets des guillemets autour de bonne sexualité. Bonne sexualité qu'elle n'aurait pas, car elle se pensait frigide, incapable d'avoir un orgasme. Elle écrit même sous le pseudonyme de Madame Narjani un article intitulé, je la cite, « Considération sur les causes anatomiques de la frigidité chez la femme ». Article dans lequel elle explique la frigidité féminine par des considérations anatomiques et biologiques. Elle est allée même jusqu'à effectuer des opérations chirurgicales multiples sur son vagin et sur son clitoris pour tenter de vivre un orgasme.
Ce sera une intervention brève.
Expliquez-moi exactement ce que vous allez me faire.
Je vous l'ai déjà expliqué.
Oubliez que je suis une femme. Utilisez les mots qui conviennent, je n'ai pas peur.
Comme il vous plaira, princesse. L'opération consiste à rapprocher le clitoris du méa urinaire par une suture transversale à ce niveau-là.
Mais le rapprochement est infime. Comment le mouvement du pénis pendant le coït provoquera une jouissance supérieure ?
La sensibilité du clitoris sera sollicitée à chacun des passages du pénis.
Et l'orgasme sera provoqué mécaniquement ?
Oui. C'est physiologique. Un phénomène de physiologie.
Pour elle, il ne semblait y avoir pour la femme qu'elle était qu'une seule bonne sexualité, une sexualité dite normale. Rappelons aussi le contexte historique de Marie Bonaparte. C'est le moment de l'éclosion de ce que l'on nomme la sexologie, c'est-à-dire l'étude des comportements sexuels considérés comme normaux ou pathologiques. La sexualité peut être vécue sur un mode de culpabilité. Cette jeune femme me dit en pleurant « Je n'ai plus de désir pour mon mari que j'aime, je souffre de ne pas pouvoir le satisfaire », dit-elle, sans entendre le poids de la norme dans ce qu'elle dit. Précisément, la sexualité peut être aussi vécue sur un mode d'anormalité. On peut se sentir anormal. Un patient me dit sa difficulté à vivre son amour des hommes, comme il l'exprime, en évitant de prononcer le mot homosexuel. Ou ce jeune homme me disant « J'aime mon plaisir solitaire et les fantasmes qui vont avec, même si je sais que c'est bizarre, que c'est pas normal. » Une autre me murmure « Certains de mes amis ne savent pas que je fais du BDSM. » Et encore « Au bureau, personne ne sait que je suis homosexuel et quand ils commencent à parler de leur femme, ça me gêne et alors je raconte les mêmes histoires qu'eux. » Là encore, on l'entend. Culpabilité, bizarrerie, tabou, secret d'alcôve. Les affaires sexuelles sont parfois adressées avec gêne et souvent avec l'inquiétude d'avoir une sexualité non normale, voire déviante. Je mets bien sûr des guillemets à ces deux mots. Comme s'il n'existait qu'une sexualité normale, unique, unitaire, comme si on pouvait parler de la sexualité. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'expression du psychanalyste Jean Allouche. « Chacun est une minorité sexuelle », dit-il. C'est d'ailleurs l'un des points subversifs de l'invention freudienne. Freud a rompu avec les discours moraux de son époque. L'une des ruptures cliniques introduites par la théorie freudienne consiste en la dépathologisation du fait sexuel humain dans toutes ses dimensions. À une époque, d'ailleurs, où toute déviance sexuelle était pathologisée. Le psychiatre allemand Krafft Ebing, contemporain de Freud, écrit un livre en 1886 intitulé « Psychopathia sexualis » sur ce qu'il nomme les déviances sexuelles. Ce livre a eu un immense succès à l'époque. Les déviances sexuelles relevaient, selon lui et la psychiatrie de l'époque, de pratiques sexuelles qui n'avaient pas comme objectif la reproduction de l'espèce. Une des ruptures importantes, si on la remet dans le contexte de son époque, est le découplage que fait Freud entre sexualité et reproduction de l'espèce, entre plaisir et contrainte sociale. C'est pourquoi, par exemple, les hystériques ou les homosexuels étaient considérés comme des personnes déviantes ou, selon le terme utilisé à ce moment-là, dégénérées. Eh bien, Freud, précisément, rompt avec cette pensée-là, rompt avec la psychiatrie de son époque. Freud maintient que ce qui caractérise les pulsions sexuelles, c'est leur plasticité illimitée, et non pas l'objet de la pulsion elle-même. Ce en quoi, d'ailleurs, il rejoindra la philosophie grecque, Platon, les anciens. Par exemple, dans cette citation où il dit, je le cite, « La différence la plus fondamentale entre la vie amoureuse du monde antique et la nôtre réside sans doute en ce que les anciens mettaient l'accent sur la pulsion elle-même tandis que nous la mettons sur son objet. » Pour Freud, n'importe quel objet investi par la libido, par cette énergie, peut satisfaire la pulsion. Un objet investi, cela peut être aussi le travail, le pouvoir, l'argent, pas simplement des objets sexuels. C'est d'ailleurs ce que Freud appelle « la sexualité élargie. » Je cite Freud. « Pour ce qui concerne l'extension du concept de sexualité, qu'il nous soit permis de rappeler à tous ceux qui, de leur hauteur, jettent un regard dédaigneux sur la psychanalyse, combien la sexualité élargie de la psychanalyse se rapproche de l'éros du divin Platon. Le philosophe de l'Antiquité grecque Platon a écrit un dialogue qui s'appelle le Banquet, où il développe ce qu'est pour lui l'amour, le dieu grec Eros, l'élan de vie. Et l'élan de vie n'a rien à voir avec les pratiques sexuelles.
Sachez donc que l'amour est une divinité merveilleuse, admirée des dieux comme des hommes. Car l'amour appartient au commencement du monde. Et il n'a ni père ni mère.
Et tout comme pour Platon, pour Freud, ce qui compte, c'est l'élan de vie, la pulsion de vie. C'est ça la sexualité élargie. Ce n'est pas seulement les pratiques sexuelles. C'est la pulsion de vie qu'il appelle Eros contre la pulsion de mort qu'il appelle Thanatos. C'est pourquoi quand on exerce la psychanalyse freudienne, il est important de se rappeler les bases de son invention. Ce qui parfois peut être difficile, car on peut être rattrapé en tant que psychanalyste par ses propres préjugés et par ses propres normes sociales. Un psychanalyste n'est pas en dehors de l'époque dans laquelle il exerce. Il a aussi ses propres préjugés et sa propre morale. À cet égard, et pour prendre un exemple justement issu des textes de Freud, je voudrais vous citer des passages d'un texte que je trouve très réjouissant à lire. Le texte s'intitule « De la psychanalyse sauvage ». Je cite Freud. Il y a quelques jours, apparut à ma consultation, accompagnée par une amie, une dame d'un certain âge qui se plaignait d'états d'angoisse. Elle était dans la deuxième moitié de la quarantaine, assez bien conservée, et n'avait visiblement pas encore mis un terme à sa féminité. Le facteur ayant occasionné l'éruption de ses états était le divorce d'avec son dernier mari. Mais d'après ce qu'elle indiquait, l'angoisse avait connu un accroissement considérable depuis que, dans son faubourg, elle avait consulté un jeune médecin. Celui-ci, en effet, lui avait exposé que la cause de son angoisse était son état de besoin sexuel. Selon lui, elle ne pouvait pas se passer du commerce avec l'homme et c'était pourquoi il n'y avait pour elle que trois voies menant à la santé. Ou elle retournait vers son mari, ou elle prenait un amant, ou elle se satisfaisait elle-même. Depuis, elle se disait convaincue qu'elle était inguérissable, car elle ne voulait pas retourner vers son mari et les deux autres moyens contraires à sa morale et à ses idées religieuses. Dans la suite du texte, Freud s'engage dans la mise au jour de ce qu'il appelle l'analyse sauvage. Parmi ses arguments que je retiendrai ici, celui qui m'intéresse est celui-ci. Je cite Freud. Les conseils du médecin font apparaître clairement dans quel sens il conçoit la vie sexuelle, à savoir dans le sens populaire où l'on ne comprend par besoin sexuel rien d'autre que le besoin du coït ou de manœuvres analogues provoquant l'orgasme et l'évacuation des substances sexuées. Pour Freud, le médecin se règle sur le discours normatif de son époque et sur son savoir institué. Il est du côté du sens populaire. Voilà ce que dit Freud. On me dirait aujourd'hui que plus aucun praticien freudien ne ferait ce genre d'erreur et ne serait du côté du bon sens populaire. Pourtant, la sexualité est devenue dans nos époques contemporaines une affaire et un discours relevant du social et du politique.
Patient en sida qui vient de passer de réa aujourd'hui.
Alors lui aussi, c'est un emmerdeur. C'est un sida toxicomane actif qui a de la fièvre.
Il va un peu mieux.
Monsieur X, il n'y a pas de problème.
Alors, ce qui marche le plus, c'est le conseil, c'est le même que chez l'aspect.
Donc, vous avez appris qu'il était séronégatif.
Allez, ouvre. Ouvre ta main gauche. Je sais.
L'inconscient.
Voilà.
Avec Laurie Lefer sur France Inter.
y a longtemps, dans mon parcours académique, j'ai été amenée à travailler à l'hôpital de la Salpêtrière, dans le service des maladies infectieuses. Tous les patients avaient le sida. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de trithérapie. Nous sommes dans les années 1990. Les trithérapies apparaissent en 1992. J'ai donc travaillé dans un service où il y avait des personnes qui étaient homosexuelles ou toxicomanes. Il y avait beaucoup de femmes africaines aussi. Toutes et tous avaient contracté le sida. Et à l'époque, cette épidémie était très stigmatisée et stigmatisante. Tous les jours, quand j'arrivais à la Salpêtrière, me sautaient au visage sur les portes des chambres des patients trois lettres. D, C, D. C'était extrêmement violent. La façon dont certains patients pouvaient parler de ce qui leur arrivait était surdéterminée par des problèmes de violence sociale, de discrimination, d'homophobie, de rejet de leur sexualité, y compris de la part des soignants de l'hôpital, pris dans la panique de cette maladie qu'on ne connaissait pas et qui tuait sans traitement. Parfois, certains jeunes hommes m'évoquaient le rejet par leur famille et l'impossibilité de faire reconnaître qu'ils avaient un compagnon depuis longtemps. Les femmes que j'ai rencontrées ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Elles ne parlaient pas de leur mari. Elles étaient exclues et stigmatisées par leur entourage.
Dans un service où l'on soigne les sidéens, tout se partage, y compris la douleur. Plus que tout autre, peut-être, les psychologues sont au cœur de ce partage.
Je viens pour écouter. Je m'assois. J'ai la durée auprès des patients. Donc c'est sûr que j'ai une façon de fonctionner complètement différente que les autres membres de l'équipe.
Les malades, ils vous parlent de quoi ?
Ils parlent de la maladie, de la mort, très souvent. Et ça, ils le disent très clairement, car c'est une pathologie où les gens savent parfaitement ce qui les attend. Ils le savent, et je crois qu'il faut pouvoir écouter ce qu'ils vous disent à propos de leur mort.
Il y avait là une réalité matérielle du métier de psychologue et du métier de psychanalyste. L'impossibilité de voir son compagnon dans les derniers instants, l'impossibilité d'organiser ses obsèques parce que la famille ne le voulait pas, l'exclusion pour l'héritage, tous ces éléments ont été marquants pour moi et dans ma formation. Alors quand j'entends des patients qui souffrent de leur sexualité parce qu'ils la considèrent déviante ou anormale, j'entends bien aussi toutes les normes sociales qui peuvent peser sur eux. Un homme me dit « J'ai pu avouer mon homosexualité à mon père que lorsqu'il était sur son lit de mort. » Je relève « avouer » afin de lui faire entendre tout le registre de la faute et de la culpabilité et qu'il puisse en dire quelque chose. J'associais sur Proust qui ne voulait pas faire publier la recherche du temps perdu du vivant de sa mère. Une phrase du psychanalyste Jacques Lacan résume bien la pensée de Freud concernant la sexualité. Jacques Lacan, pour résumer Freud, dit « Il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. » Selon Freud, les normes sont arbitraires et conventionnelles. Elle relève d'une fiction et de l'imaginaire social. Freud n'a eu de cesse de montrer que dans l'expérience de la sexualité humaine, il y a des différences et des genres multiples, des conduites et des pratiques sexuelles diversifiées presque à l'infini, bref, des différenciations complexes et subtiles dans une polysexualité soumise, selon les temps et les lieux, à une variété de normes, elles-mêmes plus ou moins contraignantes et plus ou moins nécessaires. Prenons l'exemple de l'homosexualité, qui est de façon récurrente un sujet pour celles et ceux qui viennent consulter. Malgré les avancées sociales dans les pays occidentaux, l'inquiétude, l'angoisse pèsent encore pour certains. Au temps de Freud, l'homosexualité était considérée comme une déviance et un délit. Interviewé dans le journal viennois Die Zeit, alors qu'il était interrogé sur un scandale impliquant une importante personnalité traduite en justice pour homosexualité, Freud répond la chose suivante. Je le cite. L'homosexualité ne relève pas du tribunal, et j'ai même la ferme conviction que les homosexuels ne doivent pas être traités comme des gens malades, car une telle orientation sexuelle n'est pas une maladie. Il précise dans un de ses ouvrages « La recherche psychanalytique s'oppose avec la plus grande détermination à la tentative de séparer les homosexuels des autres êtres humains en tant que groupe particularisé. » Freud poursuit « En étudiant d'autres excitations sexuelles, elle apprend que tous les hommes sont capables d'un choix d'objet homosexuel et qu'ils ont effectivement fait ce choix dans l'inconscient. » Freud continue en disant « Du point de vue de la psychanalyse, l'intérêt sexuel exclusif de l'homme pour la femme est aussi un problème qui requiert une explication et non pas quelque chose qui va de soi et qu'il y aurait lieu d'attribuer à une attraction chimique en son fondement. » Vous l'entendez ? Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que pour Freud, l'attirance hétérosexuelle est aussi un problème qui requiert une explication et non pas quelque chose qui va de soi. En somme, pour Freud, c'est toute la sexualité qui pose question, quelle que soit la façon dont elle se manifeste. Le propos est donc très clair. La question n'est pas de savoir pourquoi l'être sexué est homo ou hétéro ou bi ou pansexuel ou polyamoureux ou que sais-je encore, mais comment le sujet parlant devient sexué. En d'autres termes, quelles sont les conditions pour qu'un sujet accède à un désir qui le porte et qui le tienne ? En 1935, une mère avait écrit d'Amérique du Nord à Freud pour lui demander conseil à propos de son fils homosexuel. Et la réponse de Freud avait été envoyée anonymement par cette femme à Alfred Kinsey. Alors Alfred Kinsey a été rendu célèbre pour avoir réalisé des rapports sur le comportement sexuel des humains dans les années 50. Juste pour vous dire, Alfred Kinsey écrit en 1948 « Le comportement sexuel de l'homme » et en 1954 « Le comportement sexuel de la femme ». Deux gros ouvrages sur la sexualité dans les années 50. Cette mère joint un mot à Alfred Kinsey quand elle lui remet la réponse de Freud. Elle écrit « Je vous envoie ci-joint une lettre d'un grand homme et d'un homme bon, lettre que vous pouvez conserver, de la part d'une mère reconnaissante. » Et donc, je vous lis la réponse de Freud. Chère madame, je crois comprendre d'après votre lettre que votre fils est homosexuel. J'ai été frappée du fait que vous ne mentionnez pas vous-même ce terme dans les informations que vous me donnez à son sujet. Puis-je vous demander pourquoi vous l'évitez ? L'homosexualité n'est évidemment pas un avantage. Freud évoque juste ici la question sociale. Ce n'est pas un avantage car elle est considérée à l'époque comme un délit. Je reprends Freud. L'homosexualité n'est évidemment pas un avantage. Mais, dit-il, il n'y a là rien dont on doive avoir honte. Ce n'est ni un vice, ni un avilissement et on ne saurait la qualifier de maladie. Nous la considérons comme une variation de la fonction sexuelle, dit Freud. Et il poursuit dans sa lettre en disant « C'est une grande injustice de persécuter l'homosexualité comme un crime, et c'est aussi une cruauté. En me demandant s'il m'est possible de vous venir en aide, vous voulez sans doute demander si je puis supprimer l'homosexualité et faire qu'une hétérosexualité la remplace. La réponse est que, d'une manière générale, nous ne pouvons promettre d'y arriver. Le résultat du traitement reste imprévisible. Ce que la psychanalyse peut faire pour votre fils se situe à un niveau différent. S'il est malheureux, névrosé, déchiré par des conflits, inhibé dans sa vie sociale, alors la psychanalyse peut lui apporter l'harmonie, la paix de l'esprit, une pleine activité qu'il demeure homosexuel ou qu'il change. Chères auditrices, chers auditeurs. Vous l'entendez? La conclusion de Freud est très claire. Le choix de la sexualité n'est pas la question pour Freud. Pour Freud, et je le répète, s'il est malheureux, névrosé, déchiré par des conflits, inhibé dans sa vie sociale, alors la psychanalyse peut lui apporter quelque chose. C'est quand même une toute autre perspective que de vouloir hiérarchiser des sexualités ou rectifier un comportement sexuel. En tant que psychanalyste, je ne fais pas de hiérarchie en lien avec une morale sexuelle. Il y a des normes sociales faute de normes sexuelles, je le redis. Du temps de Freud, certaines pratiques sexuelles étaient interdites ou honteuses. Aujourd'hui, elles sont conformes. Si on prend la masturbation, par exemple, elle était considérée comme un acte immoral, honteux, interdit. Il y avait même des livres très savants sur cette question-là. Je pense au livre de Auguste Tissot, par exemple, qui s'intitule « L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation ». Ce livre date de 1760 et il a été republié tout le long du XIXe siècle avec un immense succès. Cet ouvrage évoquait toutes les maladies ou les déformations que l'on pouvait contracter en cas de masturbation. Regardez le film de Michael Haneke, « Le ruban blanc », un film qui montre l'Allemagne du début du XXe siècle.
Ta mère et moi, nous nous faisons beaucoup de soucis. Comme tu le sais, je suis également pasteur dans la commune de Birkenbrunn. Il y a déjà quelques années de ça, une mère est venue me voir au sujet de son fils. Il avait à peu près ton âge. Ce garçon avait surpris un individu quelconque qui était en train de se nuire en abusant des nerfs les plus sensibles de son corps, là même où la loi divine a érigé des barrières sacrées. Le jeune garçon a ensuite imité ce geste et il n'a jamais pu arrêter de le faire. Il a si affreusement détraqué tous les nerfs de son corps qu'il a fini par en mourir. Pourquoi pleures-tu? Veux-tu que je t'épargne des aveux? C'est bien vrai, tu as fait toi aussi ce que ce garçon a fait?
Oui.
Haneke met en scène ce que l'on faisait subir aux adolescents. Par exemple, en leur attachant les mains au-dessus des draps avec un ruban blanc.
Regarde, mais regarde, je te dis, va voir ce qui se passe.
Vous pouvez imaginer que lorsque le ruban était détaché,
il y a le feu.
Ça voulait bien dire qu'ils avaient fait quelque chose avec leurs mains.
Détache-moi!
Quelque chose qui était interdit.
Détache mes mains!
J'ai pas le droit.
Je te dis de me détacher, tu te dépêches!
Je peux pas. Mes pères nous l'ont interdit.
Sauf s'il s'agit d'une urgence, faut bien aller le prévenir. Au feu!
Je me souviens d'une émission de radio il y a des années où un animateur recevait le témoignage d'adolescents sur leur sexualité. Et il leur répondait souvent « Ce n'est pas sale ». Je repense à une jeune femme qui vient me voir et qui se sent monstrueuse. C'est le mot qu'elle emploie parce qu'elle a du désir sexuel pour une femme, collègue de travail. Elle en sanglote. Je lui demande ce qu'est un monstre pour elle et ce que montre un monstre et dont elle pourrait avoir honte. Gail Rubin, qui est anthropologue américaine et qui a beaucoup travaillé sur l'anthropologie de la sexualité, critique dans ses analyses une hiérarchie sexuelle en mettant en perspective ce qu'elle appelle un concept de variété sexuelle anodine. Je la cite. « La diversité sexuelle existe, tout le monde n'a pas plaisir à faire les mêmes choses. Et ceux qui ont des préférences sexuelles différentes ne sont pas des malades, des abrutis, des gens pervertis, des gens qui se font laver le cerveau, des gens sous la contrainte, les suppôts du patriarcat, les produits de la décadence bourgeoise ou les rescapés de mauvaises méthodes éducatives. » Il faut, dit-elle, en finir avec l'usage qui veut qu'on explique la diversité sexuelle en la dénigrant. Alors, quand j'entends des patients parler de leurs pratiques sexuelles dont ils disent avoir honte ou qu'ils pensent anormales, je pense à Freud et à Gail Rubin. C'est une variété sexuelle anodine. C'est anodin, si bien sûr cela reste dans le domaine du consentement et de la loi juridique. Je ne hiérarchise pas ce qui serait une bonne ou une mauvaise sexualité. La question que je me pose en revanche est comme celle de Freud, que je citais tout à l'heure. Si le patient est malheureux, névrosé, déchiré par des conflits, inhibé dans sa vie sociale, alors la psychanalyse peut lui apporter quelque chose, quelle que soit sa pratique sexuelle. Une des questions qui revient souvent lorsque les patients s'interrogent sur une sexualité qu'ils trouvent en dehors des normes sociales, c'est « Pourquoi suis-je comme ça ?» Donner du sens, une étiologie, c'est-à-dire une cause, rassure beaucoup. Freud lui-même a cherché des causes à telle ou telle sexualité. J'ai eu un prof à la fac de psycho un jour qui avait dit « Il arrive qu'un parapluie soit un parapluie ». Je pense que parfois, il y a un excès de signification, un excès de sens qui relève aussi d'une forme d'imaginaire et d'idéalisation. Qu'est-ce que ce serait qu'une sexualité idéale ? C'est une drôle de question, non ? Alors les patients et les patientes veulent savoir pourquoi ils aiment ceci ou pas cela, et pourquoi ça marche ainsi et pas comme ça. À un moment donné de sa propre analyse, on a besoin d'une production de sens, pour arriver à un certain endroit de sa propre histoire. D'accord, je suis ainsi parce que, et puis parce que, et puis parce que. Il s'agit de se déplacer par rapport à ses causalités. Se déplacer, faire un pas de côté, reviendrait à perdre quelque chose de cette histoire fabriquée, pour en produire d'autres peut-être. Certains patients déconstruisent leurs propres stéréotypes quand ils font une analyse. Parce que tout stéréotype relève d'un idéal. Eh bien, il en va de même pour la sexualité. Une expérience analytique insiste sur l'idée que toute construction, que toute vérité sur sa sexualité peut devenir une question pour le sujet. L'homme jeune, blanc, actif, cisgenre et hétérosexuel, la femme blanche, hétérosexuelle, passive et maternante, c'est-à-dire les supposés représentants d'une santé universelle, peuvent aussi être déconstruits sur le divan parce qu'ils n'existent pas vraiment. Dans sa conférence qu'il intitule « La vie sexuelle », Freud fait la liste de toutes les pratiques sexuelles qui sont considérées à l'époque comme hors des normes sociales. Puis à la fin de la conférence, il dit « Et à présent, mesdames et messieurs, quelle position adoptons-nous par rapport à ces modes inhabituels de la satisfaction sexuelle ? Nous indigner ? Exprimer notre répugnance personnelle ? Et assurer que nous ne partageons pas ces appétences ? Voilà qui n'avance manifestement à rien. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Et finalement, c'est un phénomène comme un autre. Et Freud rajoute ceci qui me paraît essentiel quand on exerce la psychanalyse. Si on ne comprend pas toutes ces variations sexuelles, on ne comprend pas ce qu'est la vie sexuelle dite normale.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Laurie Lefebvre.
Dans un instant, je répondrai aux questions que m'ont adressées les auditrices et les auditeurs qui ont écouté cet épisode en podcast. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser vos questions pour les prochains épisodes qui sont disponibles sur les plateformes d'écoute et que vous pouvez nous poser vos questions avant la diffusion à l'antenne sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Avant nos échanges, nous allons écouter Cigarettes After Sex.
Whispered something in your ear. It was
C'est à vous maintenant de prendre la parole. Nous écoutons vos questions.
Bonjour, je m'appelle Lou et je vous remercie énormément pour cette émission passionnante. Et j'avais deux questions. La première, bon, je ne suis pas du tout une spécialiste en psychologie. Et j'avais comme image que de Freud, le complexe d'Oedipe, selon lequel le petit garçon est attiré par la mère, et voulait évincer le père, donc ça me semblait une image très hétérosexuelle de la sexualité, justement. Et donc, voilà, comment on articule cette image qu'on peut avoir sur le complexe d'Oedipe et ce que vous avez expliqué sur, finalement, la grande ouverture d'esprit de Freud et ses conseils quant aux patients soi-disant malades d'homosexualité, enfin, toute votre émission. Et j'avais aussi une deuxième question sur un exemple que vous donnez d'une dame qui vous a dit « Je n'ai plus de sexualité depuis longtemps et je m'en porte très bien ». Donc, suite à votre émission, on peut se demander est-ce qu'il est vraiment possible de ne pas avoir de sexualité, au sens de ne pas avoir de pulsion, ou votre cliente voulait en réalité dire qu'elle n'avait pas de rapport sexuel au sens de ce que la norme prescrit. Voilà, si vous pouviez élaborer un petit peu sur ces deux points, je vous en serais très reconnaissante. Et un grand merci à toute l'équipe pour ces émissions passionnantes sur l'inconscient. Au revoir.
Merci beaucoup, Lou, pour vos questions très intéressantes. Vous avez raison de revenir sur la question de l'Œdipe chez Freud, parce que c'est une notion qui a été très vulgarisée, très naturalisée. Et en fait, il faut reprendre le point de son départ. C'est-à-dire que Freud, et c'est là où il est scandaleux, quand il met en perspective le complexe d'Œdipe, c'est-à-dire le système, hein, complexe, c'est un système, c'est une complexité des mouvements qu'un enfant peut ressentir vis-à-vis de ses parents, ou en tout cas des figures qui l'environnent. Et en fait, à l'époque où Freud met en perspective ce complexe d'Œdipe, qu'il reprend dans la fiction grecque, il crée une rupture vis-à-vis de son temps en disant « L'enfant a un inconscient, et dans cet inconscient, il y a des mouvements d'hostilité et d'amour envers les adultes qui l'entourent. » Alors il faut remettre un peu dans le contexte, parce que rien que ça, c'est déjà quelque chose qui est assez scandaleux pour l'époque. Après, bon, le complexe d'Œdipe a pu servir, je dirais, à bien ranger les choses dans certaines cases ou dans certaines catégories, mais ce que dit Freud, c'est qu'en fait, ce système met surtout en question la question du désir et la question des identifications. Qu'est-ce qu'on peut désirer ou à quoi on s'identifie dans les modèles ou dans les figures qui nous environnent. Donc vous avez raison de dire que c'est un peu vulgarisé que de remettre le complexe d'Œdipe du côté de un petit garçon est attiré par sa maman et une petite fille est attirée par son papa. C'est bien plus complexe que ça, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un complexe d'Œdipe. Et je crois que de réduire la psychanalyse à cette simplification, ce serait servir d'autres causes que la psychanalyse elle-même. Quant à votre seconde question, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu montrer dans mon propos, c'est précisément la différence qu'il peut y avoir entre une sexualité, des pratiques sexuelles qui peuvent relever à un moment donné de sexologie ou de normes sexuelles d'une époque, et le sexuel élargi freudien. C'est-à-dire le sexuel élargi de la psychanalyse. Le sexuel élargi, c'est la pulsion, c'est l'éros, c'est la vitalité. Donc, ce sont deux choses différentes. Et je crois que c'est très important dans votre question de reclarifier cette affaire-là. C'est-à-dire que la psychanalyse s'intéresse moins ou peu aux pratiques sexuelles, si ce n'est dans le caractère normatif et pathologisant qu'elles peuvent véhiculer, que à la pulsion elle-même, c'est-à-dire la vitalité ou l'éros qui peut exister chez un sujet. Une cure, si je puis dire ça comme ça, c'est comment remettre en mouvement la pulsion, comment faire en sorte que le sujet retrouve sa vitalité.
Merci beaucoup pour cette émission passionnante que j'ai écoutée avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Je note que dans votre podcast, vous avez surtout envisagé des cas de figure où la liberté sexuelle du sujet doit être défendue et affirmée contre des normes réactionnaires. Je voudrais avoir votre avis sur les cas de figure peut-être plus embarrassants, mais peut-être pas si rares, où des normes sexuelles potentiellement répressives sont énoncées ou promues au nom de valeurs progressistes, au nom de valeurs émancipatrices. Je pense par exemple au cas où des attirances sexuelles liées à la couleur de peau ou à l'origine des personnes désirées peuvent être dénoncées par des militants antiracistes comme reflétant ou pire encore comme reproduisant certains préjugés racistes ou exotisants. La question de ce qu'on appelle le racisme sexuel est un thème qui n'est pas tout à fait confidentiel, en particulier à l'heure des sites de rencontres. De même, je pense à de possibles condamnations par des discours féministes de rapports sexuels ou amoureux hétérosexuels dans lesquels l'homme serait beaucoup plus âgé que la femme et serait supposé avoir sur elle quelque chose comme une emprise ou comme une domination. De telles situations peuvent être soupçonnées de refléter des schémas patriarcaux. Alors, ma question serait, qu'est-ce que la psychanalyse a à dire dans ce cas-là? Et puis, comment une psychanalyse émancipée, pour reprendre le titre d'un de vos livres, peut-elle articuler la défense de la liberté du sujet face aux normes et, par ailleurs, la prise en compte de ses préoccupations sociales assez contemporaines pour certaines d'entre elles. Comment faire cette articulation? Peut-elle la faire? Et d'ailleurs, tout simplement, le doit-elle? Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour ce développement passionnant et la profusion de vos questions. Ce que je peux dire d'emblée, c'est qu'il est important, à mon avis, aujourd'hui, que la psychanalyse puisse être au fait d'un certain nombre d'études, que ce soit des études féministes, des études autour des questions de pouvoir et de domination dans un contexte social, racial, sexiste. La question que vous posez, en fait, elle met en perspective la question suivante. Est-ce qu'une psychanalyse peut être en dehors de l'époque dans laquelle elle peut s'exercer? Or, aujourd'hui, il y a des mouvements qui ont travaillé, qui ont produit des études autour des normes raciales, des normes sociales, des normes sexistes. Et je crois que ce serait très intéressant de se poser la question de savoir quel type d'articulation on peut faire entre la psychanalyse et ces études-là. C'est un petit peu d'ailleurs ce que j'ai voulu montrer dans le livre que vous évoquez et que j'ai écrit là dernièrement, où il s'agit de relever précisément les effets de rencontre entre le sujet de l'inconscient, c'est-à-dire qu'est-ce qui détermine inconsciemment les choix d'un sujet, et en même temps ses capacités et ses ressources d'agent social. Autrement dit, qu'est-ce que je fais de moi avec ce que l'on a fait de moi ou avec ce que l'on fait de moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de moi dans le sens où comment je peux négocier avec mon inconscient, avec les normes sociales ou avec les assignations et les identifications qui font aussi qui je suis. Voilà, donc c'est la rencontre entre le sujet de l'inconscient et l'agent social que je trouve intéressant à travailler dans certaines situations. Et là, dans ces situations, on peut rencontrer ce que vous évoquez, les normes raciales, les normes sexistes, les normes patriarcales, etc.
L'inconscient avec Laurie Lefebvre sur France Inter.
Nous poursuivons notre réflexion avec vos questions.
Bonjour, c'est Sophie. Alors, suite à votre superbe émission, et merci encore pour tous ces podcasts que je savoure avec grand plaisir. En fait, comment la norme, le rapport à la norme, au regard sociétal, pèse peut-être davantage sur les femmes, ou c'est un postulat qui, pour vous, vous semble un petit peu exagéré? Voilà. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup, Sophie, pour cette question. Alors, sur le rapport à la norme au regard de la société, bien sûr qu'il y a une notion de genre qui est prise dans certaines normativités de la sexualité. Quand vous dites « on attend parfois un peu plus des femmes que des hommes » ou la question de la féminité ou la question de la masculinité ou de la virilité, tout ça sont des normes de genre. Et ces normes de genre ont des effets parfois sur certaines pratiques sexuelles. Donc je crois que c'est très important et effectivement très intéressant de travailler sur comment se construit l'idée qu'on a de sa propre sexualité en fonction du genre que l'on a. Je pense que ça, c'est un point qui peut parfois être une des questions que l'on peut retrouver dans une psychanalyse.
Bonjour, je m'appelle André. Je suis philosophe de profession. Vous représentez le psychanalyse. Le psychanalyse est basé sur les idées de Sigmund Freud. Sigmund Freud pensait que pratiquement tout le comportement humain est déterminé par des motifs sexuels. Et il pensait aussi que les rêves de l'individu, de l'homme aussi bien que de la femme, est composé des désirs sexuels non réalisés. Cela est absurde à mon avis. Je ne pense pas que tous les contenus de nos rêves est composé des désirs sexuels non réalisés. Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup André pour vos questions. Alors, quand Freud parle du rêve, il évoque le fait que le rêve est une satisfaction de désir. Mais une satisfaction de désir qui n'est pas nécessairement sexuelle. En fait, ce qui est important pour Freud, c'est de dire qu'il y a une pulsion qui pousse le sujet à satisfaire sa pulsion, mais pas simplement avec un objet sexuel, quel que soit l'objet de satisfaction de la pulsion. C'est-à-dire que l'objet, ça peut être le travail, par exemple, qui est une satisfaction pulsionnelle. Ça peut être le pouvoir, ça peut être l'argent, ça peut être que sais-je encore. Donc ce qui est important, et vous avez raison de le souligner, c'est que ça a été d'ailleurs une des critiques qui a été faite à la psychanalyse, de considérer que tout était de l'ordre de la sexualité. Ça me permet de rappeler que pour Freud, le sexuel n'est pas réductible à la sexualité. Le sexuel, c'est la libido, c'est-à-dire c'est l'élan vital, c'est l'éros. On a besoin de libido pour investir notre travail, par exemple, pour investir une relation avec des amis, voilà, pour investir des objets qui nous permettent de satisfaire notre élan vital.
Bonjour, j'avais une question par rapport à un passage du podcast qui m'a interpellée sur l'excès de signification, l'excès de sens. Alors, j'ai pas très très bien compris pour plusieurs raisons. D'abord, il me semblait que l'un des outils du psychanalyse, c'est d'interpréter, voire même de surinterpréter et de co-interpréter avec le patient. Donc, de trouver du sens, même pour ce qui peut paraître des détails, pour trouver des voies à explorer et connaître son inconscient. Et d'autant plus, comme vous l'avez dit, que donner du sens, ça rassure beaucoup. Et j'ai pas compris non plus le lien avec la sexualité quand vous parlez d'excès de signification. Est-ce que se poser des questions sur les causes de son orientation sexuelle ou de ses goûts pour certaines pratiques sexuelles, est-ce que c'est finalement vain? Merci de m'éclairer. Au revoir.
Merci beaucoup pour cette question. Alors, ce que je disais, c'est que dans l'émission, c'est que parfois, il y a des patients qui cherchent absolument à savoir pourquoi ils ont telle ou telle attirance ou telle pratique sexuelle ou pourquoi ils sont homosexuels ou pourquoi ils, etc. Et cette recherche de causalité peut parfois les enfermer, je dirais, ou enfermer le sujet dans un, c'est ça que j'appelais un excès de signification. C'est-à-dire comme une espèce de nécessité de trouver une origine, une cause qui expliquerait tout un comportement. Je crois que c'est dans ce sens-là que je disais excès de signification. Hein? Il y a des significations. Il y a bien sûr une recherche de causalité nécessaire et effectivement qui donne un sens et qui peut parfois rassurer. Mais lorsqu'on est dans cet excès-là, si cet excès empêche, entrave, eh bien là, je crois que précisément, c'est une surinterprétation qui n'est pas toujours nécessaire. Merci à toutes et tous pour vos questions. Et merci aussi à l'équipe, à Manuel Couturier à la technique, à Valentine Chedebois pour le choix du disque, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Audrey Ripouille pour la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec le docteur Nasio. D'ici là, vous pouvez écouter son podcast sur notre page internet L'Inconscient, sur franceinter.fr et lui laisser vos messages par note vocale ou bien sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 14 mai et je vous parlerai de la question du genre.